Chapitre 2. Qu'avez-vous donc, belle Marianne ? Me répondit-il. Oui, c'est moi. C'est qu'on ne vous l'a pas dit. Que je suis charmé de vous voir. Hélas, vous me paraissez encore bien faible. Ma mère est dans un parloir ici près qui parle avec Madame d'Orsin à une religieuse à qui elle avait quelque chose à dire de la part de ses parentes, et elle m'a chargé de venir toujours vous avertir qu'elle allait être ici dans un moment, et qu'elle avait dessein de vous emmener avec votre amie, Mademoiselle Varton. Mais j'ai bien peur que vous ne soyez pas encore en état de sortir. Voyez cependant, voulez-vous aller vous habiller ? Non, monsieur, lui dis-je en reprenant mes esprits, et avec une respiration un peu embarrassée. Non, je ne m'habillerai point. Je suis convalescente et Madame de Mirand me permettra bien de rester comme me voilà. Oh, sans difficulté, reprit-il. Eh bien, vous nous avez jetés dans de terribles alarmes, ajouta-t-il ensuite, d'un ton d'un homme qui s'excite à paraître empressé, qui veut parler et qui ne sait que dire. Comment vous trouvez-vous ? Je ne sais si je me trompe, mais on dirait que vous êtes triste. C'est peut-être un reste de faiblesse qui vous donne cet air-là, car apparemment rien ne vous chagrine. Ce que je sentais bien qu'il me disait à cause que mon accueil et que ma mélancolie l'inquiétaient sans doute. Oh, ce n'est pas qu'il crut que Mademoiselle Varton m'avait révélé son secret. Elle lui avait caché ce qui s'était passé entre elle et moi là-dessus, et lui avait fait entendre qu'elle ne savait nos engagements que par une confidence d'amitié que je lui avais faite. Mais n'importe, tout est suspect à un coupable. Et Mademoiselle Varton, par quelques mots dits imprudemment, pouvait m'avoir donné quelques lumières, et c'est ce qu'il craignait. Jusque-là, je n'avais osé l'envisager. Je ne voulais pas qu'il vît dans mes yeux que j'étais instruite, et j'appréhendais de n'avoir pas la force de le lui dissimuler. À la fin, il me sembla que je pouvais compter sur moi, et je levai les yeux pour répondre à ce qu'il venait de me dire. Au sortir d'une aussi grande maladie que la mienne, on est si languissante qu'on en paraît triste, repartis-je en examinant l'air qu'il avait lui-même. Ah, madame, qu'on a de peine à commettre effrontément une perfidie. Il faut que l'âme se sente bien déshonorée par ce crime-là. Il faut qu'elle ait une furieuse vocation pour être vraie, puisqu'elle surmonte si difficilement la confusion qu'elle a d'être fausse. Figurez-vous que Valville ne put jamais soutenir mes regards, que jamais il n'osa fixer les siens sur moi, malgré toute l'assurance qu'il tâchait d'avoir. En un mot, je ne le reconnus plus. Ce n'était plus le même homme. Il y avait plus de franchise, plus de naïveté, plus de joie de me voir dans cette physionomie autrefois si pénétrée et si attendrie quand j'étais présente. Tout l'amour en était effacé. Je n'y vis plus qu'embarras et qu'imposture. Je ne trouvais plus qu'un visage froid et contraint qu'il tâchait d'animer pour m'en cacher l'ennui, l'indifférence et la sécheresse. Hélas, je n'y pus tenir, madame, et j'eus bientôt baissé les yeux pour ne le plus voir. En les baissant, je soupirais. Oh, il n'eut pas moyen de m'en empêcher. Il le remarqua et s'en inquiéta encore. « Est-ce que vous avez de la peine à respirer, Marianne ? » me dit-il. « Non, lui répondis-je. Tout cela vient de langueur, et puis... » Nous fûmes l'un et l'autre un petit intervalle de temps sans rien dire, ce qui arriva plus d'une fois. Ces petites pauses avaient quelque chose de singulier. Nous les avions jamais connues dans nos entretiens passés, et plus elles déconcertaient mon infidèle, plus elles devenaient fréquentes. À mon égard, tout ce que j'étais en état de prendre sur moi, c'était de me taire sur le sujet de ma douleur, et le reste allait comme il pouvait. « Mais cette langueur que vous avez m'attriste moi-même, me dit-il. On nous avait assuré que vous étiez plus rétabli. Voyez, je vous prie, quel discours glacé. Vous dissipez sous un peu dans votre couvent. Vous avez des amis. Oui, repris-je, j'ai une religieuse qui m'aime beaucoup. Et puis j'y vois Mademoiselle Varton, qui est très aimable. Elle le paraît, me dit-il. Et vous devez en juger mieux que moi. L'avez-vous fait avertir, lui dis-je. C'est elle que Madame de Mirand va la venir prendre? Oui, je pense que ma mère a dit qu'on lui parle, répondit-il. Vous serez bien aise de la mieux connaître, lui dis-je. Oh, mais je l'ai vue ici une ou deux fois, de la part de ma mère, et pour lui demander de vos nouvelles pendant que vous étiez malade, reprit-il. Ne le savez-vous pas? Elle doit vous l'avoir dit. Oui, répondis-je, elle m'en a parlé. Et puis nous nous tûmes, lui toujours par embarras, et moi moitié par tristesse et par discrétion. Oh, ça, tâchez donc de vous remettre tout à fait, mademoiselle, me dit-il. Et ensuite, il me semble que j'entends ma mère dans la cour. Voyons si je me trompe, ajouta-t-il pour aller regarder aux fenêtres. Et ce petit mouvement lui épargnait quelques discours qu'il aurait fallu qu'il me tînt pour entretenir la conversation, ou du moins ne l'obligeait plus qu'à me parler de loin sur ce qu'il verrait alors dans cette cour et sur ce qu'il n'y verrait pas. Ah oui, me dit-il, c'est elle-même avec Madame d'Orsin. Les voilà qui montent et je vais leur ouvrir la porte. Ce qu'en effet, il alla faire sans que je lui dise un mot. J'étouffais mes soupirs pendant qu'il se sauvait ainsi de moi. Il descendit même quelques degrés de l'escalier pour donner la main à Madame d'Orsin qui montait la première. La voilà donc, cette chère enfant, me dit-elle en entrant et en me tendant la main. Grâce au ciel, nous la conserverons. Nous ne devions venir que cet après-midi, mademoiselle, mais j'ai dit à votre mère que je voulais absolument dîner avec vous pour vous voir plus longtemps. Madame, c'était à Madame de Mirand à qui elle s'adressait, elle est mieux que je ne croyais. Elle se remet à nos merveilles. Elle n'est presque pas changée. Je ne sais plus ce que je répondis. Valville était à côté de Madame d'Orsin et souriait en me regardant, comme s'il avait eu beaucoup de plaisir à me voir aussi. Ma fille, me dit Madame de Mirand, tu ne t'es donc point habillée? J'avais envoyé Valville pour te dire que je venais te chercher. À ce discours, qu'elle me tenait de l'air du monde le plus affectueux, à ce nom de ma fille qu'elle me donnait de si bonne foi, je laissai tomber quelques larmes, et en même temps je m'aperçus que Valville rougissait, je ne sais pourquoi. Peut-être eut-il honte de me voir si inutilement attendri, et de penser que ce doux nom de ma fille n'aboutirait à rien. En vérité, votre fille vous aime trop pour l'état de convalescente où elle est, dit alors Madame d'Orsin. Elle n'a besoin ni de ces petits mouvements, ni ces émotions de cœur qui lui prennent, et j'ai peur que cela ne lui nuise. Laissez-la se rétablir parfaitement, et puis qu'elle pleure tant qu'elle voudra de joie de vous voir. Mais jusque-là, point d'attendrissement, s'il vous plaît. Allons, mademoiselle, tâchez de vous réjouir et partons, car il se fait tard. J'attends mademoiselle Varton, reprit Madame de Mirand. Et pour toi, ajouta-t-elle, nous t'emmènerons comme tu es. Il n'est pas nécessaire que tu remontes chez toi, n'est-ce pas? Hélas, malgré toute l'envie que nous avons de la voir, je tremble qu'elle ne puisse venir, dit promptement Valville, qui, sous prétexte de s'intéresser à ma santé, ne voulait apparemment que me fournir une excuse dont il espérait que je profiterais. Mais il se trompa. Vous m'excuserez, monsieur, répondis-je. Oh, je me porte moins mal, et puisque madame veut bien me dispenser de m'habiller, notez que ce madame était pour ma mère, je serais charmé d'aller avec elle. Mais qu'est-ce que c'est que madame? Reprit en riant Madame de Mirand. À qui parles-tu? Ta maladie t'a rendu bien grave. Dites respectueuse, ma mère. Je ne serais trop l'être, repartis-je avec un soupir que je ne pus retenir, et qui n'échappa point à Madame d'Orsin, et qui confondit l'inquiète et coupable Valville. Oh, il en perdit toute contenance. Et en effet, il y avait de quoi. Ce soupir, avec ce respect dans lequel je me retranchais, n'avait point l'air d'être là pour rien. Madame d'Orsin remarqua aussi qu'il en avait été troublé. Je le vis à la façon dont elle nous observait tous les deux. Madame de Mirand allait peut-être me répondre encore quelque chose quand Mademoiselle Varton entra dans un négligé fort décent et fort bien entendu. Comme elle avait prévu que, malgré mes chagrins, je pourrais être de la partie du dîner, elle s'était sans doute abstenue à cause de moi de se parer davantage et s'était contentée d'un ajustement fort simple qui semblait exclure tout dessein de plaire ou qui, raisonnablement parlant, ne me laissait aucun sujet de l'accuser de ce dessein. Je devinais tout d'un coup ce ménagement apparent qu'elle avait eu pour moi, mais je n'en fus pas la dupe. En pareil cas, une amante jalouse et trahie en sait encore plus qu'une amante aimée. Ainsi, son négligé m'en imposa pas. J'y vis au premier coup d'œil qu'il n'était pas de bonne foi et qu'elle avait tâché de n'y rien perdre. La petite personne avait bien voulu se priver de magnificence, mais non pas s'épargner les grâces. Et moi, qui m'étais laissé comme je m'étais mise en me levant, qui n'avais précisément songé qu'à jeter sur moi une mauvaise robe, moi, si changé, si maigre, avec des yeux éteints, avec un visage tel qu'on l'a quand on sort de maladie, et tel qu'on l'a aussi quand on est affligé, fouillé que d'accident à la fois contre le mien, je me sentis mortifié, je vous l'avoue, de paraître avec tant de désavantages auprès d'elle, et par là d'aider moi-même à justifier Valville. Qu'un amant vous quitte et vous en préfère une autre, bien soit, mais du moins qu'il ait tort de nous la préférer, que ce soit la faute de son inconstance et non pas de nos charmes. Enfin, que ce soit une injustice qu'il nous fasse, c'est bien la moindre chose. Et il me semblait que je ne pourrais pas dire que Valville fût injuste. De sorte que je me repentis de m'être engagé à dîner chez Madame de Mirand, mais il n'y avait plus moyen de s'en dédire. Et puis, dans le fond, il y avait bien des choses à alléguer en ma faveur. Ma rivale, après tout, n'avait pas tant de quoi triompher. Si elle était plus brillante que moi, ce n'était pas qu'elle fût plus aimable. C'est seulement qu'elle se portait bien et que j'avais été malade. J'étais dispensé d'avoir mes grâces, et elle était obligée d'avoir les siennes. Aussi les avait-elle. Et voilà jusqu'où elles allaient, pas davantage, au lieu qu'on ne savait pas jusqu'où iraient les miennes quand elles seraient revenues. Je ne vous répéterai point tous les compliments que ces dames lui firent. Il était l'heure de partir et nous sortîmes toutes deux du couvent pour monter en carrosse. Nous voici arrivés, on servit quelques moments après. J'appréhende que cette petite fille-là ne soit pas bien rétablie, dit Madame de Mirand en me regardant après le repas. Elle a je ne sais quelle mélancolie que je n'aime point. Était-elle de même dans votre couvent, mademoiselle ? Elle parlait à Mademoiselle Varton, qui rougit de la question. « Mais oui, madame, à peu près, répondit-elle. Elle a de la peine à revenir. Il y a pourtant des moments où cela se passe. Sa maladie a été longue et violente. » Madame d'Orsin ne disait mot et nous avait toujours examinés, Valville et moi. Le repas fini, il faisait beau et on fut se promener sur la terrasse du jardin. La conversation fut d'abord générale, ensuite on demanda à Mademoiselle Varton des nouvelles de sa mère, on parla de son voyage, de son retour et de ses affaires. Pendant qu'on était là-dessus, je feignis quelque curiosité de voir un cabinet de verdure qui était au bout de la terrasse. « Il me paraît fort joli, » dis-je à Valville, pour l'engager à m'y mener. « Oh non, me répondit-il, c'est fort peu de choses. » Mais comme je me levais, il ne put se dispenser de me suivre, et je le séparai ainsi du reste de la compagnie. « Je vous demande pardon, lui dis-je en marchant. On s'entretient de choses qui vous intéressent peut-être, mais nous ne serons qu'un instant. » « Mais vous vous moquez, me dit-il d'un air forcé. Ne savez-vous pas le plaisir que j'ai d'être avec vous ?» Je ne lui répondis rien. Nous entrions alors dans le cabinet et le cœur me battait. Je ne savais pas par où commencer ce que j'avais à lui dire. « À propos, commença-t-il lui-même, et vous allez voir si c'était par un à propos qu'il devait s'entretenir de ce dont il s'agissait. Vous souvenez-vous de cette charge que je veux avoir ? » Si je m'en souviens, monsieur, sans doute, repartis-je, c'est cette affaire-là qui a différé notre mariage. Est-elle terminée, monsieur, ou va-t-elle bientôt l'être ? Hélas, non, il n'y a encore rien à finir, reprit-il. Nous sommes un peu moins avancés que le premier jour. Ma mère vous en parlera sans doute. Il est survenu des oppositions, des difficultés qui retardent la conclusion et qui malheureusement pourront la retarder encore longtemps. Notez que c'était des difficultés faites à plaisir qui venaient de son intrigue et de celle de ses amis, sans que Madame Mirand sût rien, comme la suite va le prouver. Oh, ce sont des créanciers, continua-t-il, des héritiers qui nous arrêtent, qu'il faut mettre d'accord et qui, oh, suivant toute apparence, ne seront pas si tôt. J'en suis au désespoir, cela me chagrine extrêmement, ajouta-t-il en faisant deux ou trois pas pour sortir du cabinet. Un moment, monsieur, lui dis-je, je suis un peu las, asseyons-nous. Dites-moi, je vous prie, pourquoi ces difficultés vous chagrinent-elles ? Eh mais, reprit-il, ne le devinez-vous pas ? Et ce mariage, quel retard ! Vous jugez bien que je serais charmé qu'on pût le conclure. J'ai eu même quelque envie de proposer à ma mère de le terminer toujours en attendant la charge. Mais j'ai cru qu'il valait mieux s'en tenir à ce qu'elle a décidé là-dessus. Elle ne l'a pas trop pressé, n'est-il pas vrai ? Alors il n'y a rien à craindre de sa part, lui répondis-je. Ce ne sera jamais par elle que ce mariage manquera. Non, certes, dit-il, ni par moi non plus. Je crois que vous en êtes bien persuadé, mais cela m'empêche pas que ce retardement ne m'impatiente, et je souhaiterais bien que ma mère eût été d'avis de ne pas remettre. Elle n'a pas consulté mon amour. Je crus devoir alors saisir cet instant pour m'expliquer. « Et de quel amour parlez-vous donc, monsieur ? » repris-je, seulement pour entamer la matière. « Duquel ? Me dit-il, bien, mais du mien, mademoiselle, de mes sentiments pour vous. Vous est-il nouveau que je vous aime ? Et vous en prenez-vous à moi des obstacles qui arrêtent une union que je désire encore plus que vous ? » Pour toute réponse, je tirai sur le champ un papier de ma poche et le lui donnai. C'était la lettre qu'il avait écrite à Mademoiselle Varton et qui m'était restée, vous le savez. Comme je la lui présentai ouverte, il la reconnut d'abord. Oh, jugez dans quelle confusion il tomba ! Cela n'est point exprimable. Oh, il fait pitié à tout autre qu'à moi. Il essaya cependant de se remettre. « Eh bien, mademoiselle, mais qu'est-ce que c'est que ce papier ? Que voulez-vous que j'en fasse ? Me dit-il en le tenant d'une main tremblante. « Ah oui ! » ajouta-t-il ensuite en feignant de rire, et sans trop savoir ce qu'il disait. Ben, « Je vois bien, oui, c'est de moi, c'est ma lettre. Ah, j'oubliais de vous en parler, c'est une bagatelle. » Vous étiez malade, la conversation roulait sur l'amour, et à l'occasion de cela, j'ai plaisanté, voilà tout. Je n'y songeais plus. C'est que nous nous sommes rencontrés ailleurs, mademoiselle Varton et moi. Je l'ai vue chez madame de Quinard, hélas, mon Dieu. Tout le monde le sait, il n'y a pas de mystère. Je n'y vous voyais pas, et on s'amuse. À propos de madame de Quinard, j'ai grande envie que vous la connaissiez. Je crois même lui avoir parlé de vous. C'est une femme de mérite. Je le laissais achever tout ce discours qui n'avait ni suite ni raison et qui marquait si bien le désordre de son esprit. Et je me taisais, les yeux baissés. Quand il eut fini, « Monsieur, lui dis-je, sans lui faire aucun reproche et sans relever un seul mot de ce qu'il avait dit, je dois rendre justice à mademoiselle Varton. Ne l'accusez pas d'avoir sacrifié votre lettre. Elle ne me l'a donnée ni par mépris ni par dédain pour vous. Je ne l'ai eue qu'à la suite de l'entretien que nous eûmes hier ensemble, et elle ne savait ni l'intérêt que je prenais à vous, ni celui que j'avais la vanité de croire que vous preniez à moi, je vous assure. Mais la vanité, reprit-il avec une physionomie toute renversée, la vanité, mais il y en a point là-dedans, c'est un fait, mademoiselle. Monsieur, lui répondis-je d'un ton modeste, ayez, je vous prie, la bonté de m'écouter jusqu'à la fin. Mademoiselle Varton, à qui vous rendîtes une visite il y a quelques jours, me dit, quand elle vous eut quitté, qu'elle sortait avec le fils de madame de Miran, qui était venu de sa part lui demander de ses nouvelles et des miennes, et de la lettre que vous veniez de lui donner en même temps. Elle ne m'a pas dit un mot. Mais hier, en apprenant que notre mariage était conclu, elle demeura interdite. « Oh, interdite !» s'écria-t-il. « Et d'où vient-elle ? Vous me surprenez, que lui importe ?»« Oh, je n'en sais rien, » répondis-je. « Mais quoi qu'il en soit, je m'en aperçus. Je lui en demandai la raison, je la pressai. L'aveu de la lettre lui échappa et elle me la montra alors. » « À la bonne heure, » reprit-il encore. « Elle était fort, la maîtresse, et ce n'était pas là à vous montrer quelque chose de bien important. Mais qu'est-ce que c'est que cette lettre ? Elle en sait bien la valeur, je ne lui avais pas dit de ne pas la montrer. « Vous m'excuserez, monsieur, vous ne vous en souvenez pas, et vous l'en priez dans la lettre même, » repartis-je doucement, « mais achevons. » Je ne vous ai fait cette petite explication qu'afin que mademoiselle Varton, supposez qu'elle vous aime, comme assurément vous avez lieu de l'espérer, ne dise point que j'ai parlé en jalouse, ce qui ne me conviendrait pas avec une fille comme elle. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Mais qu'est-ce que c'est que des explications, des jalousies ? S'écria-t-il. Mais que voulez-vous dire ? En vérité, mademoiselle Marianne, y songez-vous ? Que je meurs si je vous comprends, non, 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 je n'y entends rien. Et, monsieur, lui dis-je, laissez-moi finir. Avec qui vous abaissez-vous à feindre? Avez-vous oublié à qui vous parlez? Ne suis-je pas cette Marianne, cette petite fille, qui doit tout à votre famille, qui n'aurait su que devenir sans ses bontés et mériter que vous embarrassiez dans des explications? « Non, monsieur, non, non, ne m'interrompez plus. Le temps nous presse. Il faut convenir de quelque chose. Vous savez les dispositions de votre cœur, mais songez donc que madame de Miran les ignore. Qu'elle vous croit toujours dans vos premiers sentiments, que d'ailleurs elle m'honore d'une tendresse infinie. Qu'elle se figure que je serai sa fille. » Qu'il lui tarde que je le sois et qu'elle pourra fort bien se résoudre à ne pas attendre que vous ayez votre charge pour nous marier, d'autant que vous l'avez vous-même, il n'y a pas longtemps, fort pressée pour ce mariage qu'elle croira vous combler de joie en l'avançant. Oh, je vous demande, irez-vous tout d'un coup lui dire que vous ne voulez plus qu'il en soit question? Je la connais, monsieur, madame votre mère. Elle a un cœur plein de droiture et de vertu. Et sans compter le chagrin que vous lui feriez, cela lui causerait encore une surprise qui vous nuirait peut-être dans son esprit. Et il faut tâcher de lui adoucir un peu cette aventure-ci. Une mère comme elle est bien digne d'être bien ménagée. Et moi-même, pour tous les biens du monde, je ne voudrais pas être cause que vous fussiez mal auprès d'elle. J'en serais inconsolable. Et qui suis-je pour être le sujet d'une querelle entre vous et madame de Miran? Moi qui vous ai l'obligation de la bienveillance qu'elle a pour moi et de tous les bienfaits que j'en ai reçus. Ah, mon Dieu, ce serait bien alors que vous auriez raison de détester le jour Vous avez connu cette malheureuse orpheline, mais c'est à quoi je ne donnerai pas lieu, si je puis. Ainsi, monsieur, voyez comment vous souhaitez que je me conduise, et quel arrangement nous prendrons afin de nous épargner les inconvénients dont je parle. Je ferai tout pour vous, hors de dire que je ne vous aime plus, ce qui n'est pas encore vrai, ce qu'après tout ce qui s'est passé, je n'aurais pas même la hardiesse de dire quand ce serait une vérité. Mais à l'exception de ce discours, vous n'avez qu'à me dicter ce que vous trouvez à propos que je tienne. Vous êtes le maître, et ce n'est que dans le dessein de vous servir que j'ai pris la liberté de vous tirer à quartier. Ainsi expliquez-vous, monsieur. Jusque-là, Valville s'était défendu du mieux qu'il avait pu, et avait eu, je ne sais comment, le courage de ne convenir de rien. Mais ce que je venais de dire le mit hors d'état de résister davantage. Ma générosité le terrassa, l'anéantit devant moi. Je ne vis plus qu'un homme rendu, qui ne faisait plus mystère de sa honte, qui s'y laissait aller sans réserve, et qui se mettait à la merci du mépris que j'étais bien en droit d'avoir pour lui. Je ne fis pas semblant de voir sa confusion, mais comme il restait muet. « Ayez donc la bonté de me répondre, monsieur, lui dis-je. Que me prescrivez-vous ? Mademoiselle, comme il vous plaira. J'ai tort, je ne saurais parler. » Ce fut là toute sa réponse. Il aurait cependant été nécessaire de voir ce que je dirais, ajoutai-je encore d'un air franc et pressant. Mais il se tut, et il n'eut plus moyen d'en tirer un mot. Mademoiselle Varton, qui s'était détachée de nos deux dames, approchait pendant qu'elle se promenait. « Monsieur, lui dis-je, dans l'incertitude où vous me laissiez du parti que je dois prendre, j'en agirai avec le plus de discrétion qu'il me sera possible, et il ne tiendra pas à moi que tout ceci ne réunisse au gré de vos désirs. » Comme il restait toujours muet, et que j'allais le quitter après ce peu de mots, Mademoiselle Varton, qui était déjà à l'entrée du cabinet, feignit d'être surprise de nous trouver là et en même temps de n'oser nous interrompre. « Oh, je vous demande pardon, » nous dit-elle en se retirant. « Oh, je ne savais pas que vous étiez encore ici et vous croyez descendu dans le jardin. »« Mais vous êtes bien la maîtresse d'entrée, mademoiselle, » lui dis-je. Voilà notre entretien fini, et vous auriez pu en être, monsieur est témoin, qui ne s'est rien passé contre vous. Qu'appelez-vous contre moi ? Répondit-elle. Mais vraiment, mademoiselle, je n'en doute pas, quel rapport y a-t-il de vos secrets à ce qui me regarde ? Je ne répliquai rien, et je sortis du cabinet pour retourner auprès de ces dames, qui, de leur côté, venaient à nous, de façon que nos deux amants, que je laissais, ne purent tout au plus demeurer qu'un moment ensemble. Je ne sais ce qu'ils se dirent, mais je les entendis qui me suivaient, et en prêtant l'oreille, il me sembla que Mademoiselle Varton parlait assez bas à Valville. Pour moi, je revenais tout ému de ma petite expédition, mais je dis agréablement ému. Cette dignité de sentiment que je venais de montrer à mon infidèle, cette honte et cette humiliation que je laissais dans son cœur, cet étonnement où il devait être de la noblesse de mon procédé, enfin, cette supériorité que mon âme venait de prendre sur la sienne, supériorité plus attendrissante que fâcheuse, plus aimable que superbe, tout cela me remuait intérieurement d'un sentiment doux et flatteur, et je me trouvais trop respectable pour n'être pas regretté. Voilà qui était fini. Il ne lui était plus possible, à mon avis, d'aimer Mademoiselle Varton d'aussi bon cœur qu'il aurait fait. Je le défiais de m'oublier, d'avoir la paix avec lui-même, sans compter que j'avais dessein de ne plus voir, ce qui serait encore une punition pour lui, de sorte que, tout bien examiné, Je crois qu'en vérité, je me le figurais encore plus à plaindre que moi. Mais qu'au surplus, c'était sa faute. Pourquoi était-il infidèle? Et c'était là les petites pensées qui m'occupaient en allant au-devant de Madame de Mirand. Et je ne saurais vous dire le charme qu'elles avaient pour moi, ni combien elles tempéraient ma douleur. C'est que la vengeance est douce à tous les cœurs offensés. Il leur en faut une, et il n'y a que cela qui les soulage. Les uns l'aiment cruelle, les autres généreuse, et comme vous voyez, mon cœur était de ces derniers, car ce n'était pas vouloir beaucoup de mal à Valleville que de ne lui souhaiter que des regrets. Je vous ai déjà dit que Mademoiselle Varton et lui me suivaient, et nous eurent bientôt joints. Il s'était élevé un petit vent assez incommode. « Rentrons, » dit Madame de Mirand, et nous marchâmes du côté de la salle. Je m'aperçus que Madame d'Orsin, qui avait la bonté de s'intéresser réellement à moi et qui, dans de certains soupçons qui lui étaient venus, avait pris garde à toutes nos démarches, je m'aperçus, dis-je, qu'elle fixait les yeux sur Valleville, qui de son côté détournait la tête. Sa physionomie n'était pas encore bien remise de tous les mouvements qu'il avait essuyés. Madame de Mirand, même, qui ne se doutait de rien, lui trouva apparemment quelque chose de si dérangé dans l'air de son visage que, s'approchant de moi, « Ma fille, me dit-elle en baissant le ton, Valleville me paraît triste et rêveur. Que s'est-il passé entre vous deux? Que lui as-tu dit ?»« Rien, dont il n'ait dû être fort content, ma mère, lui répondis-je. Et j'avais raison, il n'avait en effet qu'à se louer de moi. Je vais lui rendre sa gaieté, j'y suis déterminé, me répartit-elle sans s'expliquer davantage. Et en ce moment, nous rentrâmes tous. » Quand nous fûmes assis, « Mademoiselle, me dit Madame de Mirand, Mademoiselle Varton est une amie devant qui on peut parler, je pense du mariage qui est arrêté entre vous et mon fils. J'espère même qu'elle nous fera l'honneur d'y être présente. Ainsi je ne ferai nulle difficulté de m'expliquer devant elle. » À ce début, la jeune personne changea de couleur. Elle en prévit une scène où elle craignait d'être impliquée elle-même. Elle fit cependant une petite inclination de tête en remerciement de la confiance que lui marquait Madame de Mirand. « Mon fils, continua la dernière, vous rêvez à votre charge. J'avais résolu de vous marier qu'après que vous l'auriez. Mais je ne m'attendais pas à toutes les difficultés qui vous empêchent de l'avoir. Et puisqu'elles ne finissent point, qu'on ne sait pas quand elles finiront et qu'elles vous chagrinent, il n'y a qu'à passer par là-dessus et terminer le mariage, avec la seule précaution de le tenir secret pendant quelque temps. J'ai déjà pris des mesures sans vous les avoir dites. Il ne nous faut que 3 ou 4 jours. Nous partirons d'ici le soir pour aller coucher à la campagne. Et madame, ajouta-t-elle en montrant Madame d'Orsin, a promis d'être des nôtres. Mademoiselle, elle parlait de ma rivale, voudra bien venir aussi, et le lendemain, s'en sera fait. » Ici, Valleville retomba dans toutes les détresses où je l'avais jeté, il n'y avait qu'un instant. Mademoiselle Varton rougissait et ne savait quelle figure faire. Et de mon côté, je me taisais d'un air plus triste que satisfait. Il n'y avait point de malice à mon silence, mais c'est que ma tendresse et mon respect pour Madame de Mirand, et peut-être aussi mon amour pour Valleville, m'ôtaient la force de parler, me liaient la langue. Ainsi, il se passa un petit intervalle de temps sans que nous ouvrissions la bouche, Valleville et moi. À la fin, ce fut lui qui prit le premier son parti, bien moins pour répondre que pour prononcer quelques mots qui figurassent, qui tinssent lieu d'une réponse. Car il n'en avait point de déterminé et ne savait ce qu'il allait dire, mais il fallait bien un peu remplir ce vide étonnant que faisait notre silence. « Oui, dame, ma mère, il est vrai, oui, oui, vous avez raison. Il n'y a rien de plus aisé, oui, à la campagne. Quand on voudra, il n'y aura qu'à voir. » Mais comment, que dites-vous? Il n'y aura qu'à voir, reprit madame de Mirande d'un ton qui signifiait. Mais où sommes-nous, Valeville? Êtes-vous distrait? Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Que faut-il donc voir? Est-ce que tout n'est pas vu? Non, madame, répondis-je alors à mon tour en soupirant, non. La bonté que vous avez de n'aimer vous ferme les yeux sur les raisons qui doivent absolument rompre ce mariage. Et je vous conjure, par tous les bienfaits dont vous m'avez comblé, par la reconnaissance éternelle que j'en aurai, par tout l'intérêt que vous prenez aux avantages de monsieur votre fils, de ne le plus presser là-dessus et d'abandonner ce projet. « Et d'où vient donc, petite fille ? » s'écria-t-elle avec colère, car il s'en fallut peu alors qu'elle me dit des injures, et le tout par tendresse irritée. « Mais d'où vient donc ? Mais qu'est-ce que cela signifie ?»« Non, ma mère, vous ne devez plus y penser, » ajoutai-je en me jetant subitement à ses genoux. « J'y perds des biens et des honneurs, mais je n'en ai que faire, ils ne me conviennent point, ils sont au-dessus de moi. Monsieur de Valeville ne pourrait m'en faire part sans me rendre l'objet de la risée de tout le monde, sans passer lui-même pour un homme sans cœur. Et quel malheur ne serait-ce pas qu'un jeune homme comme lui, qui peut aspirer à tout, qui a l'espérance d'une famille illustre, fût peut-être obligé de déserter de sa patrie pour avoir épousé une fille que personne ne connaît, une fille que vous avez tirée du néant et qui n'a pour tout bien que vos charités. S'accoutumerait-on à un pareil mariage? Mais que veut-elle dire avec ses réflexions? Mais de quoi s'avise-t-elle? Où va-t-elle chercher ce qu'elle dit là? S'écria encore madame de Mirand en m'interrompant. De grâce, écoutez-moi, madame, insistai-je. Dans le fond, ce qu'il y a de plus digne en moi de vos attentions et des siennes, assurément, c'est ma misère. Eh bien, ma mère, vous y avez eu tant d'égards, vous y avez tant encore, et vous voulez que Marianne vous appelle sa mère, vous lui faites l'honneur de l'appeler votre fille, vous la traitez comme si elle l'était, mais cela n'est-il pas admirable? Y a-t-il jamais eu rien d'égal à ce que vous faites? Et n'est-ce pas là une misère assez honorée? Faut-il encore porter la charité jusqu'à me marier à votre fils? Et cette misère est-elle une dot? Non, ma chère mère, non. Votre cœur peut, tant qu'il voudra, me donner la qualité de votre fille. C'est un présent que je puis recevoir de lui sans que personne y trouve à redire. Mais je ne dois pas le recevoir par les lois. Je ne suis point faite pour cela. Il est vrai que je m'étais rendue à vos bontés. Je croyais tout surmonté, tout paisible. L'excès de mon bonheur m'empêchait de penser, m'avait ôté tous mes scrupules. Mais il n'y a plus moyen, c'est tout le monde qui crie, qui se soulève. Et je vous parle d'après tous les discours qu'on tient à M. de Valeville, d'après les persécutions, les railleries qu'il essuie et qu'il trouve partout, de quelque côté qu'il aille. Quoi qu'il me le cache et qu'il n'ose vous le dire, elle l'étonne, il en est effrayé lui-même. Et il a raison de l'être. Et quand il ne s'en soucierait pas, ce serait à moi de m'en soucier pour lui et même pour moi. Car enfin vous m'aimez. Votre intention est que je sois heureuse, et ce serait moi, cependant, qui trahirais les desseins de votre tendresse, des desseins que je dois tant respecter, qui méritent si bien de réussir. Je les trahirais en consentant d'épouser monsieur. Mais comment serais-je heureuse s'il ne l'était pas lui-même? Et si je m'en voyais mépriser, si je m'en voyais haï, comme on le menace, que cela arriverait-il? Oh, Seigneur, moi haï! Et à cet endroit de mon discours, un torrent de larmes m'arrêta. Valeville, qui, pendant que j'avais parlé, avait fait de temps en temps comme quelqu'un qui veut répondre, mais qu'on ne laisse pas dire, se leva tout d'un coup d'un air extrêmement agité et sortit de la salle sans que personne le retînt. On lui demanda compte de sa sortie. De son côté, madame de Mirand était restée comme immobile. Madame d'Orsin, morne et pensive, regardait à terre. Mademoiselle Varton, plus inquiète que jamais de ce que je pourrais dire, ne songeait qu'à prendre une contenance qui ne l'accusât de rien, de sorte que nous étions toutes, chacune à notre façon, hors d'état de parler. Quant à moi, affaibli par l'effort que je venais de faire, je m'étais laissé aller sur les genoux de Madame de Mirand, et je pleurais. Ces deux dames, après la sortie de Valville, furent quelques instants sans rompre le silence. « Ma fille, me dit à la fin Madame de Mirand d'un air consterné, est-ce qu'il ne t'aime plus ?» Je ne lui répondis que par des pleurs, et puis elle en versa elle-même. Madame d'Orsay n'en fut pas exempte, elle me parut extrêmement touchée. J'entendis Mademoiselle Varton qui soupira un peu. On était sur ce ton-là et elle s'y conforma. Ensuite, on continua de se taire. Mais Madame de Mirand, en fondant en larmes et me serrant entre ses bras, m'attendrit et me releva tant que mes sanglots pensèrent me suffoquer et qu'il fallut me jeter dans un fauteuil. « Allons, ma fille, allons, console-toi, me dit-elle. Va, ma chère enfant. » Il te reste une mère, est-ce que tu ne la comptes pour rien ? Hélas, c'est elle que je regrette, répondis-je, je ne sais comment, et d'une parole entrecoupée. Et pourquoi la regretter ? Me dit-elle, elle est plus ta mère que jamais, et moi mille fois plus encore son amie que je ne l'étais, reprit Madame d'Orsin, la larme à l'œil, mais d'un ton ferme. Et en vérité, ce n'est pas elle que je plains, madame. C'est monsieur de Valville. Il fait une perte infiniment plus grande. Ah, voilà qui est fini, je ne l'estimerai de ma vie, reprit madame de Mirand. Mais Marianne, comment sais-tu qu'il est ailleurs ? Ajouta-t-elle. Par qui en es-tu informée, puisque ce n'est pas lui qui te l'a avoué ? La connaît-on, cette personne ? Pour qu'il rompt ses engagements, qu'est-ce qui est digne de t'être préféré ? Peut-elle te valoir, espère-t-elle te le retenir ? Dis-moi, t'a-t-on dit qui elle est ? Vous le saurez sans doute, ma mère, il faudra bien qu'il vous le dise lui-même, répondis-je. Dispensez-moi, je vous en prie, de vous en apprendre davantage. Mademoiselle, reprit encore Madame de Mirand en s'adressant à ma rivale, ma fille est votre amie. Je suis persuadé que vous êtes instruite. Elle vous a apparemment tout confié. Ne se tromperait-elle point ? Cette nouvelle inclination est-elle bien prouvée ? J'ai quelquefois envoyé Valville à votre couvent. Serait-ce là qu'il aurait vu celle dont il s'agit ? Dans le cas où se trouvait Mademoiselle Varton, il aurait fallu plus d'âge et plus d'usage du monde qu'elle n'en avait pour être à l'épreuve d'une pareille question. Aussi ne put-elle la soutenir et rougit-elle d'une manière si sensible que ces dames furent tout d'un coup au fait. « Je vous entends, mademoiselle, lui dit madame de Mirand. Vous êtes assurément fort aimable, mais après ce qui arrive à ma fille, je ne vous conseille pas de compter sur le cœur de mon fils. Mais je ne me serais attendu à votre comparaison « Ni à votre conseil, madame, répondit mademoiselle Varton, avec une fierté qui fit cesser son embarras. À l'égard de monsieur, votre fils, tout ce que je pense de son amour en cette occasion-ci, c'est qu'il m'offense, et j'aurais cru que c'était là tout ce que vous en auriez pensé aussi. Mais, madame, il se fait tard, voici l'heure de rentrer dans le couvent. Voulez-vous bien avoir la bonté de m'y renvoyer ? Mais vous jugez bien, mademoiselle, que je vous y reconduirai moi-même, repartit madame de Mirand. Et puis, s'adressant à madame d'Orsin, vous ne nous quitterez pas si tôt, lui dit-elle. Je vais faire mettre les chevaux au carrosse, je serai de retour dans un quart d'heure et je compte vous retrouver ici avec Marianne. Volontiers, dit madame d'Orsin, mais je ne fus pas de leur avis. Ma mère, lui dis-je d'une voix encore faible, Je ne connaîtrai jamais de plus grand plaisir que celui d'être avec vous. J'en ferai toujours mon bonheur. Je n'en veux point d'autre. Je n'ai besoin que de celui-là. Mais M. de Valleville reviendra ce soir. Et si vous ne voulez pas que je meure, ne m'exposez pas à le revoir, du moins si tôt. Vous seriez vous-même fâché de m'avoir gardé. Vous n'en auriez que du chagrin. Je sais combien vous m'aimez, ma mère. Et c'est votre tendresse que je ménage, c'est votre cœur que j'épargne. Et il faut que ce que je dis là soit bien vrai, puisque je vous avertis aux dépens de la consolation que j'y perdrai. Mais aussi, quand M. de Valleville aura pris un parti, quand il sera marié, je ne prends plus d'intérêt à la vie que pour être avec sa mère. Elle a raison, cette aventure-ci est encore trop fraîche, et je pense comme elle, remettons-la dans son couvent, dit Madame d'Orsin, pendant que Madame de Miron s'essuyait les yeux. Et en effet, cette dernière alla donner ses ordres, et un instant après, nous partîmes. Jamais peut-être quatre personnes ensemble n'ont été plus sérieuses et plus taciturnes que nous le fûmes, et quoique le trajet de chez ma mère au couvent fût assez long, à peine fut-il prononcé, quatre mots pendant qu'il dura. Et il est vrai que les circonstances où nous étions, Mademoiselle Varton et moi, ne donnaient pas matière à une conversation bien animée. Il n'y eut de vif que les regards de Madame de Miron sur moi et que les miens sur elle. Enfin, nous arrivâmes. Ma rivale descendit la première, nous la suivîmes, Madame de Miron et moi, et Madame d'Orsin, qui m'embrassa la larme à l'œil, qui m'accabla de caresses et d'assurances d'amitié, resta dans le carrosse. Mademoiselle Varton, à qui il tardait d'être débarrassée de nous, sonna et fit un remerciement aussi froid que poli à ma mère. La porte s'ouvrit et elle nous quitta. Je me jetai alors entre les bras de Madame de Miron, où je restai quelques instants, sans force et sans parole. « Cache tes pleurs, me dit-elle tout bas, j'ai de la peine à retenir les miennes. Adieu. Songe que tu es pour jamais ma fille et que je te porte dans mon cœur. Je te viendrai voir demain. » Discours qu'elle me tint de l'air du monde le plus abattu. Après quoi, je rentrai moi-même. Et pour vous rendre un compte bien exact de la disposition d'esprit où j'étais, je vous dirai que je rentrais plus attendri qu'affligé. Et dans le fond, c'était assez là comme je devais être. Je laissais Madame de Miron dans la douleur. Madame d'Orsin venait de m'embrasser les larmes aux yeux. Mon infidèle lui-même était troublé. Il en avait donné des marques sensibles en nous quittant. Mon aventure remet donc les trois cœurs qui m'étaient les plus chers, auxquels le mien tenait le plus et qu'il m'était le plus consolant d'inquiéter. Vous voyez que mon affaire devenait la leur, et ce n'était point là être à plaindre tellement. Je n'étais donc pas sans secours sur la terre. On ne m'y faisait point verser de larmes sans conséquence. J'y voyais du moins des âmes qui honoraient assez la mienne pour s'occuper d'elle, pour se reprocher de l'avoir attristée ou pour s'affliger de ce qui l'affligeait. Et toutes ces idées-là ont bien de la douceur. Elles en avaient tant pour moi que je pleurais moins par chagrin, je pense, que par mignardise. Avançons. J'achevais la soirée avec mon amie la religieuse, dont enfin je vais donner dans un moment vous conter l'histoire. Vous concevez bien que nous ne nous vîmes pas, Mademoiselle Varton et moi, et qu'il ne fut plus question de commerce étroit que nous avions eu ensemble. Elle sentit cependant la discrétion avec laquelle j'en avais usé à son égard chez Madame de Miron, et m'en marqua sa reconnaissance.
À 9 heures du matin, le lendemain, une sœur converse m'apporta un petit billet d'elle. Je l'ouvris avec un peu d'inquiétude de ce qu'il contenait, mais ce n'était qu'un simple compliment sur mon procédé de la veille. et le voici à peu près. Ce que vous fîtes hier pour moi est si obligeant que je me reprocherai de vous en pas remercier. Il ne tint pas à vous qu'on ignorât la part que j'ai à vos chagrins, et malgré les mouvements où vous étiez, il ne vous échappa rien qui pût me compromettre. Cela est bien généreux, et les suites de cette aventure vous prouveront combien cette attention m'a touché. Adieu, mademoiselle. Vous allez voir, dans un instant, ce que c'était que cette preuve qu'elle s'engageait à me donner. Je répondis sur le champ à son billet, et ce fut la même converse qui lui remit ma réponse. Elle était fort courte, je m'en ressouviens aussi. « Je vous suis obligé de votre compliment, mademoiselle, mais vous ne m'en devriez point. Je n'en crois pas plus louable pour n'avoir pas été méchante. J'ai suivi mon caractère dans ce que j'ai fait, voilà tout, et je n'en demande point de récompense. » Madame de Mirand m'avait promis la veille de me venir voir, et elle me tint parole. Je ne vous ferai point le détail de la conversation que nous eûmes ensemble. Nous nous entretâmes de mademoiselle Varton, et comme tous mes ménagements pour Valville n'avaient servi à rien, je ne fis plus difficulté de lui dire par quel hasard j'avais su son infidélité, et le tout à l'avantage de ma rivale dont je ne lui confiais point les dispositions. Je pleurais dans mon récit, elle pleura à son tour. Ce qu'elle me témoigna de tendresse est au-dessus de toute expression, et ce que j'en sentis pour elle fut de même. De nouvelles de Valville, elle n'avait point à m'en dire. Il ne s'était point montré depuis l'instant qu'il nous avait quittés. Il était cependant revenu au logis, mais très tard, et ce matin même il en était parti, ou pour la campagne, ou pour Versailles. « Oh, c'est moi qu'il fuit, sans doute, » ajouta-t-elle. « Je suis persuadée qu'il a honte de paraître devant moi. » Et là-dessus, elle se levait pour s'en aller, lorsque mademoiselle Varton, que nous n'attendions ni l'une ni l'autre, entra subitement. « J'avais dessein de vous écrire, madame, » dit-elle à ma mère après l'avoir saluée. « Mais, puisque vous êtes ici et que je puis avoir l'honneur de vous parler, il vaut mieux vous épargner ma lettre et vous dire moi-même ce dont il s'agit. Oh, il n'est question que de deux mots. Monsieur de Valville a changé. Vous croyez que j'en suis cause? J'ai lieu de le croire aussi, mais comment le suis-je? C'est ce qu'il est essentiel que vous sachiez et que tout le monde sache. Madame, il ne me conviendrait pas qu'on s'y trompât, et je vais vous rapporter tout dans la plus exacte vérité. Monsieur de Valville, pour la première fois de sa vie, me vit ici le jour où je m'évanouis en faisant mes adieux à ma mère. Vous eûtes la bonté de me secourir. Il vous y aida lui-même, et j'entrai dans le couvent avec mademoiselle que je devenais de connaître, qui devint mon amie, mais qui ne me parla ni de vous, ni de monsieur de Valville, ni ne m'apprit en quels termes elle en était avec lui. « Je le sais, mademoiselle, » dit alors madame de Mirand en l'interrompant. « Marianne vient de m'instruire et vous a rendu toute la justice que vous pouvez exiger là-dessus. Mon fils va vous voir, vous fit des compliments de ma part, vous laissa une lettre en vous quittant et vous fit à croire que je l'avais chargé de vous la remettre. Vous ne pouviez pas deviner, tout autre que vous l'aurait prise et puis vous n'en avez pas fait un mystère. » Vous l'avez montré à mademoiselle dès que vous avez su qu'elle y était intéressée. Ainsi, je ne vois rien qui doit vous inquiéter. Si mon fils vous a trouvé aimable, et s'il a osé vous le dire, ce n'est pas votre faute. Vous n'y avez contribué que par les grâces d'une figure que vous ne pouviez pas vous empêcher d'avoir, et vous n'êtes pas rien dans tout cela, suivant le rapport même de Marianne. Ce rapport-là lui fait bien de l'honneur. Tout autre à ma place ne m'aurait peut-être pas traité si doucement, répartit alors mademoiselle Varton, avec des yeux prêts à pleurer. Malgré qu'elle en eût, ce qui me reste à vous dire, c'est que vous ayez la bonté d'engager monsieur de Valville à ne plus essayer de me revoir. Il le tenterait inutilement, et ce serait me manquer d'égard. Vous avez raison, mademoiselle, reprit ma mère, il ne serait pas excusable et je l'avertirai. Ce n'est pas que dans la conjoncture présente, je le fusse la première à souhaiter une alliance comme la vôtre. Elle nous honorerait beaucoup, assurément, mais mon fils ne la mérite pas. Son caractère inconstant m'épouvanterait. Et quand il serait assez heureux pour vous plaire, en vérité, j'aurais peur en vous le donnant de vous faire faire un très mauvais présent. Rassurez-vous sur ses visites, au reste, il saura combien elle vous offenserait, et j'espère que vous n'aurez point à vous plaindre. » Pour toute réponse, Mlle Barton fit une révérence et se retira. Elle s'imagina peut-être que j'estimerais beaucoup cette résolution qu'elle paraissait prendre de ne plus voir Valville, et que je la regarderais comme une preuve de la reconnaissance qu'elle m'avait promise. Mais point du tout. Je ne m'y trompais point. Ce n'était là que feindre de la reconnaissance et non pas en prouver. Que risquait-elle à refuser de voir Valville au couvent? N'avait-elle pas la maison de Madame de Clinard pour ressource? Valville n'était-il pas des amis de cette dame? N'allait-il pas très souvent chez elle? Et Mademoiselle Barton renonçait-elle à y aller aussi? Tout cet étalage de fierté et de noblesse dans le procédé n'était donc qu'une vaine démonstration qui ne signifiait rien. Et vous verrez dans la suite que je raisonnais fort juste. Mais il n'est pas temps d'en dire davantage là-dessus. Revenons à moi. Je suis né pour avoir des aventures et mon étoile ne m'en laissera pas manquer. Me voici un peu oisive. Oh, mais cela ne durera pas. Madame de Biran continuait de me voir. Valvine, toujours absent, ne paraissait point. Nous nous rencontrions, Mademoiselle Barton et moi, dans le couvent, mais nous ne faisions que nous saluer et ne nous parlions point. Il ne s'était encore passé que 4 ou 5 jours depuis notre dîner chez Madame de Miran, quand il me vint le matin une visite assez singulière, et il faut commencer par vous dire ce qui me la procura. Madame d'Orsin, ce matin même, avait été voir Madame de Miran. Elle y avait trouvé un ancien ami de la maison, un officier, homme de qualité, d'un certain âge, et qui dans un moment va se faire connaître lui-même. Il avait fort entendu parler de moi à l'occasion de mon aventure chez le ministre, et ne voyait jamais ma mère qui ne lui demandât des nouvelles de Marianne, dont il faisait des éloges éternels, fondés sur tout ce qu'on lui avait rapporté d'elle. Le bruit de ma disgrâce s'était déjà répandu. On savait déjà l'infidélité de Valville. Peut-être lui-même, depuis que sa mère ne l'avait vu, en avait-il dit quelque chose à ses meilleurs amis, qui de leur côté l'avaient confié à d'autres. Et cet homme de qualité, qui l'avait apprise, m'était venu chez Madame de Miran que pour être sûrement informé de ce qui en était. « Madame, lui dit-il, ce qu'on a publié de M. de Valville est-il vrai? On dit qu'il n'aime plus cette fille si estimable, qu'il l'a quittée et qu'il ne veut plus l'épouser. Quoi, madame, cette Marianne si chérie, si digne de l'être, il ne l'aimerait plus? Je n'ai pas voulu le croire, ce n'est apparemment qu'une calomnie. Hélas, monsieur, c'est une vérité, répondit Madame de Miran avec douleur, et je ne saurais rien m'en consoler. Ma foi, reprit-il, car Madame de Miran me l'a conté elle-même. Ma foi, vous avez raison, il aurait été grand plaisir à être la belle-mère de cet enfant-là. C'était une bonne acquisition pour le repos de votre vie. Mais à quoi pense donc M. de Valville? A-t-il peur d'être trop heureux? Je laisse le reste de leur entretien là-dessus. Madame de Biran allait dîner chez Madame d'Orsin. Cette dernière engagea l'officier à être de la partie, et tout de suite, à cause de l'extrême envie qu'il avait de me connaître, ajouta qu'il fallait que j'en fusse. Mais comme il était de bonne heure, que ces dames ne voulaient pas partir si tôt, et que cependant il était bon que je fusse prévenu, je vais donc envoyer à son couvent pour l'avertir que nous la prendrons en passant, dit ma mère. Oh, il est inutile d'envoyer, reprit cet officier. J'ai affaire de ce côté-là, et si vous voulez, je ferai votre commission moi-même. Donnez-moi seulement un petit billet pour elle. Il n'y a rien de plus simple. On ne me reverra peut-être pas. Non, certes, dit ma mère, qui, sur le champ, m'écrivit. Ma fille, je t'irai prendre à 1 heure, nous dînons chez Madame d'Orsin. Ce fut donc avec ce petit passeport que cet officier arriva à mon couvent. Il me demande, on vient de me le dire, c'est de la part de Madame de Miran, et je descends. Quelques pensionnaires, ce jour-là même, m'avaient dit par hasard qu'elle viendrait l'après-midi dîner me tenir compagnie dans ma chambre, de façon que, malgré mes chagrins, je m'étais un peu moins négligé qu'à l'ordinaire. Ce sont là de petites attentions chez nous, qui ne coûtent pas la moindre réflexion. Elles vont toutes seules, nous les avons sans le savoir. Il est vrai que j'étais affligé, mais qu'importe. Notre vanité n'entre point là-dedans, et n'en continue pas moins ses fonctions. Elle est faite pour réparer d'un côté ce que nos afflictions détruisent de l'autre, et enfin, on ne veut pas tout perdre. Me voici donc entré dans le parloir. Je vis un homme d'environ 50 ans tout au plus, de bonne mine, d'un air distingué, très bien mis, quoique simplement, et de la physionomie du monde la plus franche et la plus ouverte. Quelque politesse naturelle qu'on ait, dès que nous voyons des gens dont la figure nous prévient, notre accueil a toujours quelque chose de plus obligeant pour eux que pour d'autres. Avec ces autres, nous le sommes connaître, mais avec ceux-ci, nous le sommes jusqu'à être affables. Et cela va si vite qu'on ne s'en aperçoit même pas, et c'est ce qui m'arriva en saluant cet officier. Je n'eus pas affaire à un ingrat. Il aurait pu, à moins que de s'écrier, se montrer plus satisfait qu'il le parut de ma petite personne. J'attendis qu'il me parlât. « Mademoiselle, me dit-il après quelques révérences et en me présentant le billet de ma mère, voici ce que Madame de Miram m'a chargé de vous remettre. Il était question de vous envoyer quelqu'un et je demandais la préférence. » « Vous m'avez fait bien de l'honneur, monsieur, lui répondis-je en ouvrant le billet que j'eus bientôt lu. « Oui, monsieur, ajoutai-je ensuite, Madame de Miran me trouvera prête et je vous rends 1000 grâces de la peine que vous ayez bien voulu prendre. « Et c'est à moi à remercier Madame de Miran de m'avoir permis de venir, me repartit-il. « Mais mademoiselle, il n'est point tard, ces dames n'arriveront pas si tôt. » Pourrais-je, à la faveur de la commission que j'ai obtenue, espérer de vous un petit quart d'heure d'entretien? Il y a longtemps que je suis des amis de Madame de Miran et de toute la famille. Je dois dîner aujourd'hui avec vous, ainsi vous pouvez d'avance me regarder déjà comme un homme de votre connaissance. Dans 2 heures, je ne serai plus à l'étranger pour vous. « Vous êtes le maître, monsieur, lui répondis-je, assez surprise de ce discours. Parlez, je vous écoute. »« Bon, je ne vous laisserai pas longtemps inquiète de ce que j'ai à vous dire, » reprit-il. « En deux mots, voici de quoi il s'agit, mademoiselle. Je suis connu pour un homme d'honneur, pour un homme franc, uni, de bon commerce, et depuis que j'entends parler de vous, votre caractère est l'objet de mon estime et de mon respect. » De mon admiration, et je vous dis vrai. Je suis au fait de vos affaires. Monsieur de Valville, malheureusement pour lui, est un inconstant. Je ne dépends de personne. J'ai 25 000 livres de rente, et je vous les offre, mademoiselle. Elles sont à vous quand vous voudrez, sauf l'avis de Madame de Miran, que vous pouvez consulter là-dessus. Ce qui me surprit le plus dans sa proposition, ce fut cette rapidité avec laquelle il la fit et cette franchise obligeante dont il l'accompagna. Je n'ai vu personne si digne qu'on l'écoutât que ce galant homme. C'était son âme qui me parlait, je la voyais, Elle s'adressait à la mienne et lui demandait une réponse qui fût simple et naturelle, comme l'était la question qu'il venait de me faire. Aussi, laissant là toutes les façons, conformais-je mon procédé au sien, et, sans m'amuser à le remercier, « Monsieur, lui dis-je, mais savez-vous mon histoire ?»« Mais oui, mademoiselle, reprit-il, je la sais. Voilà pourquoi vous me voyez ici. C'est elle qui m'a appris que vous valiez mieux que tout ce que je connais dans le monde. » Et c'est elle qui m'attache à vous. Mais vous m'étonnez, monsieur, lui répondis-je. Votre façon de penser est bien rare. Je ne saurais la louer à cause qu'elle est trop à mon avantage. Mais vous êtes un homme de condition, apparemment. Oui, me repartit-il. J'oubliais de vous le dire, d'autant plus qu'à mon avis, ce n'est pas là l'essentiel. C'est surtout l'honnête homme, ce me semble, et non pas l'homme de condition, qui peut mériter d'être à vous, mademoiselle. Et comme je suis honnête homme, je pense, autant qu'on peut l'être, j'ai cru que cette qualité, jointe à la fortune que j'ai et qui nous suffirait, pourrait vous déterminer à accepter mes offres. Il n'y a pas à hésiter sur l'estime que j'en dois faire, elles sont d'une générosité infinie, lui répondis-je. Mais souffrez que je vous le dise encore, y avez-vous bien réfléchi? Je n'ai rien, j'ignore à qui je dois le jour. Je ne subsiste depuis le berceau que par des secours étrangers. J'ai vu plusieurs fois l'instant où j'allais devenir l'objet de la charité publique, et tout cela a rebuté M. de Valville, malgré l'inclination qu'il avait pour moi. Monsieur, prenez-y garde. « Ma foi, mademoiselle, tant pis pour lui, me répondit-il. Ce ne sera jamais là le plus bel endroit de sa vie. Au surplus, vous ne risquez avec moi rien de pareil à ce qui vous est arrivé avec lui. Monsieur de Valville vous aimait, et moi, mademoiselle, ce n'est point l'amour qui m'a amené ici. J'avais bien entendu dire que vous étiez belle, mais on n'est pas sensible à des charmes qu'on n'a jamais vu et qu'on ne sait que par relation. Ainsi, ce n'est pas un amant qui est venu vous trouver. C'est quelque chose de mieux, car qu'est-ce que c'est qu'un amant? C'est bien à l'amour à qui il appartient de vous offrir un cœur. Est-ce qu'une personne comme vous est faite pour être le jouet d'une passion aussi folle, aussi inconstante? Non, mademoiselle, non. Qu'on prenne de l'amour pour vous quand on vous voit, qu'on vous aime de tout son cœur à la bonne heure. On ne saurait s'en dispenser. Moi, qui vous parle, je fais comme les autres. Je sens qu'actuellement, je vous aime aussi, je vous l'avoue. Mais je n'ai pas eu besoin d'amour pour être charmé de vous. Je n'ai eu besoin que de savoir les qualités de votre âme, de sorte que votre beauté est de trop. Oh, non pas qu'elle me fâche. Je suis bien aise qu'il y soit, assurément. Un excès de bonheur ne m'empêchera pas d'être heureux. Mais enfin, ce n'est pas à cause de cette beauté que je vous ai aimé d'abord. C'est à cause que je suis homme de bon sens. C'est ma raison qui vous a donné mon cœur. Je n'ai pas apporté ici d'autres passions. Ainsi, mon attachement ne dépendra pas d'un transport de plus ou de moins. Et ma raison ne s'embarrasse pas que vous ayez du bien, pourvu que j'en ai assez pour nous deux, ni que vous ayez des parents dont je n'ai que faire. Que m'importe à moi votre famille? Quand on la connaîtrait, fût-elle royale, ajouterait-elle quelque chose au mérite personnel que vous avez? Et puis les âmes ont-elles des parents? Ne sont-elles pas toutes d'une condition égale? Eh bien, ce n'est qu'à votre âme à qui j'en veux. Ce n'est qu'au mérite qu'elle a, en vertu de laquelle je vous devrai bien du retour. C'est à moi, mademoiselle, si vous m'épousez, à qui je compte que vous ferez beaucoup de grâce. Voilà tout ce que je sais. Au reste, quel camour que je vienne de prendre pour vous, je ne vous proposerai pas d'en avoir pour moi. Vous n'avez pas 20 ans, j'en ai près de 50. Et ce serait radoté que de vous dire « aimez-moi ». Quant à votre amitié, même à votre estime, je n'y renonce pas. J'espère que j'obtiendrai l'une et l'autre, c'est mon affaire. Vous êtes raisonnable et généreuse, et il est impossible que je ne réussisse pas. Voilà, mademoiselle, tout ce que j'avais à vous dire. Il ne me reste plus qu'à savoir ce que vous décidez. Monsieur, lui dis-je, si je ne consultais que l'honneur que vous me faites dans la situation où je suis et que la bonne opinion que vous me donnez de vous, j'accepterais tout à l'heure vos offres. Mais je vous demande 8 jours pour y penser, autant pour vous que pour moi. J'y penserai pour vous à cause que vous épousez une personne qui n'est rien et qui n'a rien. J'y penserai pour moi à cause des mêmes raisons. Elle nous regarde également tous deux, et je vous conjure d'employer ces 8 jours à examiner de votre côté la chose encore plus que vous n'avez fait, et avec toute l'attention dont vous êtes capable. Vous m'estimez beaucoup, dites-vous, et aujourd'hui cela vous tient lieu de tout, par le bon esprit que vous avez. Mais il faut regarder que je ne suis pas encore à vous, monsieur, et nous ne serons pas plutôt mariés, et qu'il y aura des gens qui le trouveront mauvais et qui feront des railleries sur ma naissance inconnue et sur mon peu de fortune. Serez-vous insensible à ce qu'ils diront? Ne serez-vous pas fâché de ne vous être allié à aucune famille et de n'avoir pas augmenté votre bien par celui de votre épouse? C'est à quoi il est nécessaire que vous songiez mûrement, de même que je songerai à ce qu'il m'en arriverait à moi si vous alliez vous repentir de votre précipitation. Et puis, monsieur, quand tous ces motifs de réflexion ne m'arrêteraient pas, je n'aurais encore actuellement que la liberté de vous marquer ma reconnaissance et ne pourrais prendre mon parti sans avoir la volonté de Madame de Miran. Je suis sa fille, et même encore plus que sa fille, car c'est à son bon cœur à qui j'ai l'obligation de l'avoir pour mère, et non pas à la nature. Et c'est ce bon cœur qui a tout fait, de sorte que le mien doit lui donner tout pouvoir sur moi. Et je suis persuadé que vous êtes de mon avis. Ainsi, monsieur, je l'informerai de la générosité de vos offres, sans pourtant lui dire votre nom, à moins que vous ne me permettiez de vous faire connaître. « Oh, vous en êtes la maîtresse, mademoiselle, répondit-il. Je me soucie si peu que vous me gardiez le secret, que je serai le premier à me vanter du dessein que j'ai de vous épouser, et je prétends bien que les gens raisonnables ne feront que m'en estimer davantage, quand même vous me refuseriez. Ce qui ne me ferait aucun tort et ne signifierait rien, sinon que vous valez mieux que moi. Mais il est temps de vous quitter, dans 1 heure au plus tard, ces dames vont venir vous prendre. Vous n'êtes point habillé, je vous laisse en attendant de vous revoir chez Madame d'Orsin. Adieu, mademoiselle. Je ferai des réflexions, puisque vous voulez, et cependant, pour vous contenter, mais je ne suis pas en peine de celles qui me viendront. Oh, je ne m'inquiète que des vôtres, et d'aujourd'hui en 8, je suis ici à pareille heure, dans votre parloir, pour vous demander le résultat, et de celles de Madame de Miran, qui me seront peut-être favorables. » Et là-dessus, il se retira, sans que je lui répondisse autrement qu'en le saluant de l'air le plus affable et le plus reconnaissant qu'il me fût possible. Je rentrai dans ma chambre, où je me hâtai de m'habiller. Ces dames arrivèrent, je montai en carrosse pour aller dîner chez Madame d'Orsin, deux chez qui je revins assez tard, sans avoir encore rien appris à Madame de Miran de mon aventure avec l'officier. « Ma mère, vous reverrai-je bientôt ?» lui dis-je. « Mais demain, dans l'après-dînée, » me répondit-elle en m'embrassant, et nous nous quittâmes. Je ne parlais ce soir-là qu'à ma religieuse, que je priais de venir le lendemain matin dans ma chambre. Je voulais lui confier et la visite de l'officier et une certaine pensée qui m'était venue depuis 2 ou 3 jours et qui m'occupait. elle ne manqua pas au rendez-vous. Je débutais par l'instruire du nouveau parti qui s'offrait, qui était digne d'attention, mais sur lequel j'étais combattu par cette pensée que je viens de dire, qui était de renoncer au monde et de me fixer dans l'état tranquille qu'elle avait embrassé elle-même. « Quoi, vous faire religieuse ? » s'écria-t-elle. « Oui, lui répondis-je, ma vie est sujette à trop d'événements. Cela me fait peur. L'infidélité de Valville m'a dégoûté du monde. La Providence m'a fourni de quoi me mettre à l'abri de tous les malheurs qui m'y attendent peut-être. Je parlais de mon contrat. Du moins, je vivrai ici en repos et n'y serai à charge à personne. Une autre que moi, reprit-elle en applaudirait tout d'un coup à votre idée. Mais comme je puis encore passer une heure avec vous, je suis d'avis, avant que de vous répondre, de vous faire un petit récit des accidents de ma vie. Vous en serez plus éclairé sur votre situation. Et si vous persistez à vouloir être religieuse, du moins serez-vous mieux la valeur de l'engagement que vous prendrez. Après ces mots, voici comme elle commença, ou plutôt, voici ce qu'elle nous dira dans l'autre partie.